Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous retrouver pour cet entretien hebdomadaire. Comme chaque semaine désormais, vous offrez aux auditeurs de Radio Présence quelques instants pour partager votre point de vue, votre éclairage sur la vie de la société, de l'Église, du monde. Alors cette semaine, nous allons parler de trois points. Nous allons parler formation, nous allons parler communication dans le cadre du radiodon, et puis nous allons bien sûr parler du temps de l'Avent qui commence ce dimanche. Alors, formation, c'est un sujet que vous avez voulu aborder aujourd'hui, Monseigneur Mika, parce que vous avez passé au début de la semaine 2 jours à Paris. En tant que formateur, vous avez délivré une formation à des formateurs de séminaires. Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
Alors, c'est évidemment un sujet qui me passionne, c'est pour ça que j'ai souhaité en parler, parce que de toute façon, il est connecté avec l'actualité de notre Église, fortement interpellé à propos de la formation de ses prêtres et futurs prêtres, sur le contexte que l'on sait, des crises, des abus, des défaillances, etc., des dysfonctionnements. On interroge le monde des séminaires. À la suite du rapport de la SIAZ, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, 9 ateliers, groupes de travail ont été constitués par la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France pour se saisir de toutes les recommandations formulées au fil du texte dans le rapport de la SIAZ pour expliquer, le texte analyse les causes des abus et formule des suggestions, des préconisations pour que l'Église fonctionne mieux et devienne la maison sûre que tout le monde est en droit d'attendre qu'elle soit. Bon. Et donc, à partir de l'ensemble de ces préconisations, 9 ateliers de travail ont été composés pour proposer à la prochaine assemblée plénière des évêques au mois de mars des décisions à prendre sur 9 thèmes, et la formation des prêtres est un de ces 9 thèmes. Voilà. Donc c'est un sujet qui me passionne, puisque j'y ai consacré 24 ans de ma vie, les 24 dernières années de ma vie comme provincial de Saint-Sulpice et formateur au séminaire de Toulouse. Et donc, en effet, en début de semaine, j'étais à Paris pour participer, comme j'avais l'habitude de le faire tous les ans, à la session de formation des nouveaux formateurs nommés dans les séminaires de France. Alors, un élément tout à fait visible des changements déjà là, sans attendre les décisions qui viendront, des décisions ont déjà été prises. Un tiers des nouveaux formateurs présents à la formation, à la session, ils étaient 37 en tout, un tiers des nouveaux formateurs sont des laïcs. Et parmi ces laïcs, il y avait 2-3 hommes, le reste sont des femmes, la plupart du temps mères de famille, épouses, qui sont officiellement nommées par les évêques pour être formatrices dans les équipes de séminaire.
Pardon, alors ça c'est quand même... est-ce que c'est une nouveauté ? Parce qu'en tous les cas, pour les auditeurs de Radio Présence, c'est une annonce.
C'est une nouveauté qui était encouragée par la nouvelle norme de formation des prêtres dans le monde, signée par le pape François en 2016. Et c'est une obligation dans l'adaptation française de la norme universelle, et qui, elle, a été mise en œuvre pour la première fois dès cette rentrée.
Donc ça veut dire que désormais, dans tous les séminaires de France, parmi les formateurs, il y a des prêtres, des laïcs, des femmes, des hommes, même des mères de famille, qui seront désormais formateurs ou formatrices des séminaires.
La communauté formatrice des futurs prêtres, elle est composée de quantité de gens. Parmi eux, il y a les professeurs, internes ou externes à la maison séminaire, il y a les gens des paroisses, mais il y a aussi et principalement l'équipe des formateurs, ce qu'on appelle le conseil du séminaire. C'est à ce conseil du séminaire qu'il appartiendra, par vote, de décider de la poursuite ou non du parcours d'un séminariste et de sa présentation à l'ordination de son évêque. Et donc c'est une obligation désormais qu'au minimum une femme soit nommée dans chaque conseil de séminaire. Et donc j'ai eu la joie de participer à cette formation, d'y retrouver un prêtre de notre diocèse, le père David Marie de la cathédrale, qui lui-même se forme pour sa propre pour la formation en interne à sa communauté, et qui donc, toute la semaine, est à Paris pour participer à cette formation. On a été très très heureux de se retrouver, d'échanger quelques connivences tarbaises.
Alors, au sujet de la formation à proprement parler, est-ce que vous pouvez nous... Alors peut-être qu'il faudrait 3 émissions pour décrire exactement tout le contenu de la formation, mais est-ce que vous pouvez nous en dire quels sont les piliers de cette formation, et puis est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'elle a évolué ces dernières années, est-ce qu'elle est appelée à évoluer chaque année, par exemple ?
Elle a considérablement évolué ces dernières années parce que depuis l'année 2000 à peu près, on est, donc ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans, hein, plus que sensibilisé à la question des abus, et donc le monde des séminaires a déjà fortement intégré des recommandations sur lesquelles Jean-Paul II avait insisté déjà, notamment en matière de formation humaine, donc avec l'introduction de cours de psychologie et d'intervention de psychologues dans la formation. La présence des femmes, son but notamment, est qu'il est, acquis, il est repéré, que leur sensibilité leur permet de détecter, de sentir, de voir des choses, d'avoir un autre regard sur ces jeunes qui se préparent au ministère, que n'ont pas des hommes, que n'ont pas des prêtres. Et voilà, et donc de croiser les regards et de le faire de manière plus efficace, plus efficiente et plus complète, quoi, et puis de donner un bon visage de l'Église qui est tout entière concernée par la formation des prêtres. Donc, dimension humaine de la formation, dimension qui est la base de la formation. Mon père spirituel autrefois disait que pour faire un prêtre, il faut d'abord un chrétien, et pour faire un chrétien, il faut d'abord un homme. Et il ne faut pas court-circuiter les étapes. Donc la formation humaine, c'est la base du reste. Ensuite, la formation spirituelle, la formation intellectuelle, bien sûr, qui va occuper au minimum 6 années d'études universitaires, et puis la formation pastorale, parce que ça, c'est le but ultime, c'est de former des pasteurs et de déterminer si celui qui va être ordonné a bien les aptitudes pour ce ministère.
Voilà pour ce point formation. Alors peut-être qu'on pourra y revenir au cours de l'année puisque les choses vont évoluer, notamment avec cette étape lors de la prochaine Assemblée plénière des évêques de France qui se tiendra donc à Lourdes au printemps prochain. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de faire à nouveau un point d'étape dans cette émission. Nous passons au deuxième point, si vous voulez bien, Monseigneur Mika. Nous allons parler communication, puisque cette semaine, ça n'a pas échappé aux auditeurs de Radio Présence, nous vivons depuis lundi matin le radiodon. C'est l'occasion pour s'interroger avec vous sur le rôle des chrétiens dans la sphère médiatique et dans l'utilisation des médias. Quel est votre regard là-dessus, Monseigneur Mika ?
Tous les baptisés sont prêtres, prophètes et rois. Prophète, la dimension prophétique du baptême, c'est la capacité de parler à Dieu du monde et de parler de Dieu au monde, et donc d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile pour nous chrétiens. Pour cela, tous les moyens sont bons. Le premier des moyens, c'est le témoignage par notre vie. Ensuite, il y a le témoignage par la parole. Et Saint-Pierre dit qu'il faut que nous soyons capables de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Donc il faut pouvoir parler, témoigner par la parole à ceux qui nous demandent raison de notre foi. Bien. Ensuite, il y a tous les supports. La Bible est un des tout premiers supports, support écrit, où l'Esprit Saint s'est adressé à des hommes pour qu'ils mettent par écrit ce que Dieu voulait dire aux hommes à travers eux. Et le même Esprit Saint est donné aux auditeurs ou aux lecteurs pour qu'ils comprennent ce que Dieu a voulu que les auteurs consignent par écrit. Voilà, la Bible est ce média-là. Et puis au fur et à mesure que le monde se développe et que des médias nouveaux apparaissent, le rôle des chrétiens, c'est évidemment d'être toujours à la pointe, j'ai envie de dire, des médias disponibles pour toujours le même objectif, témoigner de l'espérance qui est en nous. Et donc il est évidemment extrêmement précieux que des chrétiens soient présents dans les médias modernes que sont la radio, la télévision, les réseaux sociaux, et de l'être d'une manière évangélique pour annoncer vraiment ce que l'Esprit Saint suggère.
Ça veut dire aussi que les chrétiens ont une certaine responsabilité dans leur manière de consommer ou d'utiliser les outils de communication avec évidemment le souci de la vérité, mais peut-être pas seulement, aussi une certaine ascèse et pas tomber dans cette boulimie du monde médiatique.
Comme tout, tous les médias, tous les moyens peuvent être mis au service du meilleur ou du pire. Bon, eh bien, il faut chaque fois que chaque personne exerce sa liberté de conscience pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu.
Alors, on termine cet entretien, Monseigneur Mika, avec une question liturgique, liée au temps liturgique, puisque nous entrons ce dimanche dans le temps de l'Avent. Alors, en tant que pasteur, sans doute pouvez-vous nous donner quelques conseils pour vivre pleinement et intensément ce temps de l'Avent, sans peut-être se précipiter déjà à la fête de Noël, même si les éclairages dans les rues, qui sont un peu moindres cette année, nous y invitent, même si les vitrines des magasins nous y invitent. Noël n'est pas encore là, nous sommes dans un temps d'attente. Quels sont vos conseils pour bien vivre ce temps d'attente ?
Eh bien, justement, finalement, le contexte économique nous y contraint. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose parce que il nous invite, ou le contexte nous invite, à vivre cette sobriété à laquelle le pape invite l'humanité, hein, une sobriété qui est au service d'une plus grande justice et d'une plus grande profondeur aussi. Et donc, en effet, la sobriété imposée par le contexte économique présent, à nous d'en faire un tremplin pour aller plus à l'intérieur, plus en profondeur. Voilà. Le temps qui va s'ouvrir dimanche est un temps absolument privilégié pour justement préparer notre intérieur à accueillir en ce lieu le plus profond de notre personne, de notre vie, de notre âme, la décision de Dieu de prendre chair en notre chair. Voilà. C'est une décision absolument inouïe, qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre intelligence, qui dépasse ce qu'on peut en comprendre et en ressentir. Eh bien, chaque année, le temps de l'Avent nous est donné pour nous préparer à cette rencontre-là, cette descente de Dieu dans notre humanité. Et si Dieu descend dans notre humanité, c'est pour nous introduire dans sa vie à lui, dans sa divinité, dans son éternité, dans sa perfection. Alors, dès cette vie, et chaque année, l'Avent vient relancer notre appétit, notre désir de cela, mais aussi au terme de toute chose et de toute vie, nous levons les yeux vers le ciel et l'Avent sert à aussi aiguiser cet élan vers le ciel parce que c'est notre horizon ultime un jour. La Bible se termine par ces mots « Viens Seigneur Jésus, Maranatha », ce sont les derniers mots vraiment de l'Écriture et qui mettent en désir de voir un jour le Christ venir dans sa gloire pour nous ouvrir définitivement les portes du ciel. Et l'Avent tourne aussi nos yeux de ce côté-là. D'une part, l'anniversaire de l'incarnation de Dieu dans l'enfant de la crèche, mais aussi la réussite de tout ce qui est introduit par cette descente de Dieu dans notre histoire, c'est-à-dire le ciel qui s'ouvre définitivement pour tous.
Un grand merci à vous, Mgr Jean-Marc Mika. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Bonne semaine à vous d'ici là.
Merci beaucoup, bonne semaine et bonne entrée en avant.